Interview.
L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Ismo sur les ondes de Erdiwa. Et pour l'interview du jour, je suis avec Emmanuel Rayas. Salut Emmanuel.
Bonjour.
Je suis avec Cécile Prali. Bonjour.
Bonjour.
Et avec Viviane Scherrer.
Bonjour.
Bonjour. Donc tous les trois, vous êtes là pour nous parler de l'accompagnement de fin de vie. Vous êtes Tanadoula. En tout cas, toi Emmanuel et toi Cécile, vous êtes des Tanadoula. Et Viviane, toi tu es sculptrice sur Terre. Tu as créé ce lieu l'Étincelle.
Oui.
Et tu accueilles Emmanuel et Cécile pour une présentation de leur activité de Tanadoula.
Tout à fait.
Alors, est-ce que dans un premier temps, on pourrait expliquer aux auditeurs qu'est-ce que c'est que cette activité de Tanadoula ?
Le métier de Tanadoula, ou accompagnement de la fin de vie et des deuils et des temps funéraires, vu comme métier en France, c'est assez récent, ça fait quelques années. C'est un métier pris comme tel dans les pays anglo-saxons et en Suisse depuis une vingtaine d'années. Et en réalité, dans les communautés humaines, c'est une fonction qui est vieille comme l'humain. Accompagner le passage de la fin de vie, de la mort et des deuils, ben, c'est une fonction hyper importante dans la vie, en fait. Et en France, les formations comme telles, nommées professionnelles, accompagnement de la fin de vie et du deuil, ça date de quelques années. Je vais parler de la formation que je connais et qu'on a fait Emmanuel et moi. Donc moi, je l'ai terminée il y a 2 ans et demi. C'est une formation qui a lieu à l'Institut Deuil Doula de fin de vie à Besançon, qui a été créée il y a 5 ans. Je pense, et qui a été créée par une personne, une femme qui a elle-même été formée en Suisse à l'Institut Rosette Poletti, qui est une référence dans l'accompagnement des soins palliatifs et de la fin de vie en Suisse. Voilà.
C'est une formation qui est longue ?
C'est une formation qui est allée sur 9 mois, quasiment un week-end par mois. Avec 2-3 mois de pause et sur 2 ou 3 jours, en fait. Enfin, c'est des week-ends de 2 ou 3 jours. Et avec une certification au bout de 9 mois. Donc voilà, c'est un groupe qui est constitué de... Alors principalement, c'est un métier qui est principalement féminin. Là, moi, sur la dernière promotion, donc moi, j'ai été certifié mi-janvier de cette année. On était 2 hommes. Et ensuite, on aborde la mort, le deuil, parce que le travail autour de ça, c'est vraiment l'accompagnement à la fin de vie et sur le deuil.
Oui, parce que c'est dans le temps, il y a la fin de vie et la période qui suit, donc qui est le deuil. Donc vous vous êtes formé sur ces deux aspects.
Oui.
J'y tiens, je vais rajouter ce qu'on a appelé les temps funéraires. Il y a la fin de vie, il y a le deuil et il y a les rituels, le temps funéraire, le soin du corps, la mort. Ce passage-là qui fait aussi partie de la formation dont on parle un petit peu. Enfin, un petit peu, oui, dont on parle. Et pour moi, c'est aussi un temps en soi. Enfin, c'est un sujet en soi. Il y a la fin de vie, il y a les temps et les rituels funéraires qui peuvent avoir lieu au moment des funérailles, mais... ça peut être un rituel funéraire qui peut se passer longtemps après, à des dates anniversaires, ou parce que ça n'a pas pu avoir lieu au moment souhaité. Voilà. Et puis, il y a le deuil. Les processus, enfin, les chemins de deuil, avec au pluriel, parce que le deuil, c'est le deuil d'un décès, d'un défunt, mais il y a aussi plein de deuils dans la vie. Et on aborde un peu les deuils au sens large de... Un deuil, c'est une séparation, voilà, une perte d'un état, un passage à la retraite, ça peut être un deuil. On parle des deuils blancs. On perd une personne, entre guillemets, parce que, par exemple, la maladie d'Alzheimer, on a une personne présente physiquement auprès de nous, mais la personnalité de l'être qu'on connaissait n'est plus tout à fait là. Ça, c'est le deuil blanc. Enfin, voilà, on aborde toute cette complexité et la pluralité du deuil.
D'accord. Toi, Cécile, ça fait longtemps que tu as fini le cursus à Besançon.
Ben, moi, je l'ai terminé en janvier 2024. Donc, ça fait 2 ans et demi bientôt. J'avais complété avec un stage que j'ai pu faire, et je les remercie, à l'unité des soins palliatifs à Cré. Donc à la fois dans le service et à la fois avec l'équipe mobile. Et donc depuis, je continue de me former toujours, mais j'exerce aussi. Donc ça fait 2 ans et demi que j'ai terminé, pour revenir à ta question.
Voilà, et que tu as eu donc l'occasion d'exercer.
Ouais.
Et toi, Emmanuel, est-ce que tu as eu l'occasion d'exercer depuis janvier ?
Non, pas depuis janvier, non. Mais en amont, oui. D'où cette réflexion de comment, dans nos pays, on accompagne nos morts. Et ça a été une expérience d'un ami qui a fait que voilà, ça a terminé un petit peu cette envie de me dire bah oui, allez, je vais vers cette formation et cette rencontre de l'expérience faite, en fait. Mais pour l'instant, non. Puis on se fait connaître. C'est pas très connu et comme activité.
Oui, c'est pas très connu. C'est pour ça aussi que vous êtes là, parce qu'il va y avoir une permanence prochainement chez toi, Viviane, à l'Étincelle.
Ouais.
Hein, c'est ça. Donc ça, ouais. ça sera quand ? Ça sera le 23 mai.
23 et le 30.
Où vous faites une présentation de votre activité. Et toi, Viviane, ce jour-là, tu exposes ton travail également ?
Oui, moi, mon travail, bien sûr, il est exposé en permanence en bas, dans une sorte de galerie, salle d'attente. J'aime bien, c'est un lieu qui a toujours été un peu spécial. On le voit, on le voit pas, mais la sculpture a toujours été là, présente. Là, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'effectivement, avec leur présence, leur envie d'avoir un lieu que ce soit plus simple pour les gens de venir, vient à moi cette envie qui était là depuis très longtemps de proposer mes mains, en quelque sorte, pour créer de la beauté, pour créer quelque chose qui n'existe plus comme les Tanadoula le propose. C'est ce lien simple avec la mort, avec ces étapes. Et ça pourrait s'apparenter aussi à comme une naissance pour les gens qui entourent cette personne qui va partir. Parce que pour certains passages, comme pour les mères, les pères, les gens très très proches, c'est vraiment un retournement de vie. Des choses qui dans le lien, n'existeront plus de la même manière. Et que ça, j'aime bien l'accompagner, déjà dans mes soins. Et ça a toujours fait partie de ma vie, de rechercher qu'est-ce qui pourrait remplacer ce qui ne fait plus partie de nos sociétés maintenant. Alors que Cécile l'a dit, ça faisait partie de nos sociétés depuis la nuit des temps. C'est presque le premier rituel qui a été créé dans l'humanité. Pleurer, c'est disparu. Comment honorer une vie et comment créer cet espace de pleurs, de gratitude pour ce qui a été partagé dans cette vie. Donc mettre mes mains au service de ce lien, ça me touche beaucoup. Et je l'ai fait donc une fois, deux fois, et je le fais donc en créant pour la première fois une urne, donc en mettant pour la première fois grâce à eux, grâce à leur présence, parce que j'ai pas beaucoup beaucoup de temps non plus. Je donne déjà beaucoup à ces espaces, que ce soit de sculpture, que ce soit de soins ou d'accompagnement. Donc Voilà, c'était un petit peu votre présence qui a initié cette première urne.
Parce que toi, tu n'es pas Tana Doula.
Non.
Hein, mais tu es concernée par leur activité. Tu as envie d'accompagner leur activité.
Oui, aussi.
Vous vous connaissez depuis longtemps?
On s'est rencontrés, j'étais en cours de formation, en début de formation de Tana Doula. Et je vais dire, Viviane m'a accompagnée aussi sur ce chemin-là. Et aussi sur un chemin de, bah pour moi, de développement des aptitudes de magnétiseuse et un petit peu d'énergétique. Donc des soins par ce biais-là qui sont complémentaires à l'accompagnement des deuils et des fins de vie pour moi. Et on a beaucoup échangé, cheminé sur notre attention qu'on partage à l'importance d'accompagner ces passages de vie. Voilà. Et un sens commun. Je crois qu'on a un regard commun. Et ça fait 2 ans peut-être qu'elle m'invite à venir travailler dans son lieu qui s'appelle l'Étincelle. J'ai mis le temps pour y aller, me sentir prête. Donc moi, c'est acté, c'est chose faite depuis le mois de janvier. Et puis, elle nous a invité vraiment, Emmanuel et moi, de pouvoir utiliser le bas de l'Étincelle, donc le rez-de-chaussée qui donne sur la rue Camille Buffardel, une vitrine de ce travail, de ce métier de Tana Doula. Et c'était pas rien, donc vraiment merci. C'était aussi pas rien pour nous de dire « Ok, on ose ». On s'expose et on s'affiche et on accueille. Et le lien entre nous, et avec son travail de sculptrice, d'objets funéraires, c'est de l'art funéraire, moi j'ai envie d'appeler ça, mais qui permet vraiment d'accompagner un moment de funérailles, un rituel, un objet de souvenir, un objet où on va ancrer la mémoire d'une personne ou de quelque chose qu'on a partagé avec une personne ou d'une expérience révolue, terminée. Il y a une page à tourner, mais on l'ancre dans un objet en terre qu'elle peut modeler en lien avec cette énergie-là. Je trouve, en tout cas pour moi, ça, c'est un outil génial qu'elle peut offrir. Et il y a vraiment ce souhait de pouvoir le présenter là de manière commune et puis on verra et en tout cas que ça se développe et puis de l'utiliser ensemble. Voilà, la rencontre s'est faite comme ça et puis Emmanuel rencontré par le biais de la formation et du métier de Tana Doula et qui a pris place de manière hyper fluide et naturelle dans le projet.
Oui, parce qu'on a commencé à faire des propositions avec Cécile sur le deuil, autour du deuil, en fait, de marcher son deuil. On a appelé ça « chemin de deuil ». Alors, pour l'instant, on a fait 2 propositions en fin d'année, l'année dernière, en novembre et en décembre. Il n'y a pas eu beaucoup d'inscrits, donc on n'a pas complètement finalisé le projet. Mais l'idée, c'est d'aller marcher pour honorer... honorer ses défunts et de le faire dans le mouvement et prendre un temps de parole aussi donc à l'extérieur en nature. C'est ça peut être un peu un fonctionnement comme un café mortel qui existe sur dit et mais là voilà avec dans le cadre de en forêt et en mettant justement un peu un côté ritualisé parce que voilà ce qui est important aussi pour nous, il y a le côté sacré et rituel. Donc, de le faire.
Ça, c'est des rendez-vous, ça, en fait, quelque part. Hein.
Oui, oui, oui.
Mais dans un premier temps, vous vous proposez une permanence. En fait, vous proposez 2 permanences.
Ouais.
Ah, des portes ouvertes.
Là, pour le coup, on va appeler ça des portes ouvertes, aujourd'hui. Après, si ça s'installe en permanence, très bien. Mais là, l'idée, déjà, c'est d'ouvrir le lieu, donc l'Étincelle, le 23 et le 30 mai.
Oui.
Pour accueillir qui veut pousser cette porte et voilà, d'échanger sur qui on est, ce qu'on propose, les outils que l'on a et voilà, c'est ouvert quoi. C'est...
Alors juste une petite précision sur les horaires, parce que c'est donc le 23 de 10h à 16h.
Oui.
Donc non mais c'est important hein, parce que voilà, à 16h c'est fini quoi. Mais il y a une seconde édition, le samedi 30 mai, de 10h à 13h cette fois-ci.
Oui.
Donc je dis ça, et c'est au 66 rue Camille Buffardel. Oui. Vous serez donc au rez-de-chaussée.
Oui.
Et vous accueillerez donc ces personnes qui seraient intéressées, parce que c'est quand même intéressant d'exposer ça sur la place publique. C'est un sujet dont les gens ont du mal à échanger ou à partager. On sent dans votre approche qu'il y a quelque chose de très ouvert pour pouvoir sereinement parler de ça. Je pense qu'il y a pas mal de traumatismes qui peuvent être liés à ce passage, à cette peur peut-être que les gens ont. On dit bien réussir sa vie, c'est une chose. Pour vous, bien réussir sa mort, oui. Ça semble déterminant également, peut-être.
Oui. Il n'y a pas d'enjeu sur bien réussir sa mort. Mmh. Mais en fait, vivre avec la conscience que la mort fait partie de la vie, et accueillir ça pour nous, pour nos proches, le vivre avec cette conscience sans que ça devienne une peur traumatique de chaque jour, mais au contraire, l'intégrer et vivre, j'ai envie de dire presque avec légèreté, avec ça, ça permet juste de vivre vraiment notre vie.
Ah oui.
Parce que quand on vit avec, on met de côté l'idée qu'on va mourir, souvent, enfin, je ne veux pas faire des grandes gênes, je crois qu'il n'y a pas de vérité nulle part, mais on vit souvent à côté de notre vie. Et se rappeler que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Moi, je vais dans des cercles de parole, des accompagnements. J'ai souvent des personnes âgées qui me disent « Moi, je suis plus près que vous. Je suis plus près de cet endroit-là que... » Enfin, on parle des funérailles, peu importe. « J'en suis plus près que vous. » Je dis « Mais je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. Peut-être que moi, c'est la semaine prochaine. » Et je le dis avec de la joie, là. Mais en fait, faire la paix avec ça, c'est un grand mot. Ça n'empêche pas la tristesse, les émotions, les larmes. Bien au contraire. Mais juste, ça permet de... être dans sa vie, parce qu'on choisit ce qu'on veut vivre, en ayant cette conscience que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on vous apprend lors de cette formation de Tanadoula.
Ouais, je crois.
De profiter de chaque instant de l'étincelle de vie, j'ai envie de dire.
C'est pas la formation qu'on apprend à vivre et à être et, mais en tout cas, en échange, on partage et on fait des ateliers. Donc forcément, on ouvre des portes et il y a beaucoup de joie et de cœur dans cette formation. Après, ça s'apprend, enfin, ça se vit tous les jours, ça s'apprend même pas. C'est la vie, mais c'est vrai qu'on devrait vraiment l'instaurer dans nos sociétés dès l'âge de notre enfance, en fait. Parce que comme dit Cécile, c'est pas, il faut être en paix avec enfin, il faut... l'idée, c'est d'être en paix et de vivre pleinement. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est par l'échange dans la formation où ça ouvre encore d'autres portes, d'autres possibilités. Mais on ne nous apprend pas à être. On est tous. Enfin, voilà.
Cécile et Viviane, tout à l'heure, vous parliez de ce rituel de passage qui date depuis l'aube de l'humanité, quelque part. Est-ce que lors de cette formation... On passe en revue différents rituels de société qui vous inspirent éventuellement pour votre activité de Tanadoula.
Alors, moi, je vais parler pour la formation, puis Viviane tire ses propres inspirations. Dans la formation, on aborde les grandes traditions, et notamment religieuses, parce que l'accompagnement et la formation est laïque. L'idée, c'est qu'on accompagne les personnes avec leurs croyances, leurs valeurs et là où ce dont elles ont besoin. On n'impose rien sur ces angles-là. Donc, on voit les rituels musulmans, chrétiens. On en aborde pas mal. Je regarde Manu parce que je ne me rappelle pas de tout. Et voilà. Et on a aussi une formation spécifique aux rituels au sens large, la signification, voilà, faire sens commun. Et on le met en pratique. Et par rapport à ce qui m'inspire, moi, c'était ta question.
Absolument.
Moi, je suis très touchée par ce qui est en lien avec la nature, on va dire, des rituels des peuples premiers, plutôt, de la beauté. Et donc, je vais parler peut-être des Amérindiens, de ces traditions-là, mais vraiment à ma manière, à moi, voilà. Voilà, pour répondre.
Viviane, tu souhaites t'exprimer aussi sur l'influence des rituels qui ont toujours existé lors de ce passage, sur comment est-ce qu'ils ont pu influencer différents praticiens ou différents accompagnateurs à être présents.
Je crois que j'ai pas franchement grand-chose à rajouter, puisque effectivement c'est un ressenti très proche de celui de Cécile, qui fait partie de ma vie. Ce lien à cette porte qui s'ouvre pour tout le monde à un moment donné ou à un autre, et qui rend la vie et sa profondeur, qui redonne sa profondeur à la vie. Ça, c'est quelque chose avec laquelle je vis tout le temps. Et c'est joyeux. C'est ça qui crée cet engagement. J'ai rien de plus à rajouter. Je me sens très proche de ce qu'elle a dit. Donc,
mais c'est très intéressant ce que tu décris, cette joie qui est présente dans cet accompagnement. Oui. Et ça fait du bien d'entendre ça, parce que c'est souvent des émotions un petit peu différentes qui accompagnent ce passage-là. Donc la notion de joie, je pense qu'elle doit faire du bien, en fait.
Oui.
Je pars pour mille et une raisons, là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir j'abandonne ma maison, j'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau, suivre son fil, j'ai apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille, où la nature écrit au pinceau. Je quitte ma ville en sachant que je vous reverrai bientôt. Mon passage ici fut tellement rempli, autant de belles histoires que de bons amis. Une famille qui m'aimait, que j'aimais aussi, quelques jolies femmes et surtout celles de ma vie. La musique m'a comblé, j'ai même joué à Bercy, contemplé les paysages de si beaux pays. Ce soir toutes ces images défilent au ralenti, voilà pourquoi j'ai juste envie de dire merci. Je pars pour mille et une raisons, là où je vivrai toutes les saisons.
Tana Doula, moi, avant de vous rencontrer, je ne connaissais pas ce terme-là, Tana Doula. Est-ce que vous pouvez l'expliquer peut-être pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme non plus?
Oui, alors Tana de Thanatos, donc de grec, qui parle Thanatos, donc c'est la mort. Hein. Et donc Doula, c'est pareil, c'est grec, c'est être au service, c'est la servante. Donc c'est un terme féminin et c'est un vieux terme. Il y a les doulas de naissance.
Ils sont plutôt des sages-femmes ?
Non.
Non ?
Non, non, non. Alors, c'est pareil. Hein. Les tanadoulas, les doulas de fin de vie, on ne fait aucun soin. On fait de l'accompagnement. Et la doula de naissance, c'est pareil. Elle fait de l'accompagnement, en fait, pour la femme enceinte qui va accoucher. Elle accompagne, elle est là. Et la tanadoula, c'est la même chose. C'est vraiment être au service de l'accompagner. De l'endeuiller.
Okay.
Et par différents outils, mais surtout le principal, c'est être là.
Donc cet accompagnement dont vous parlez, c'est d'abord une présence. C'est ça. Ça peut peut-être se concrétiser par un toucher, peut-être. Prendre la main, peut-être. Est-ce qu'il y a des paroles qui accompagnent ça? Est-ce qu'il y a peut-être des chants? J'imagine qu'il y a plein de choses possibles, en fait.
Oui, c'est ça. En fait, il peut y avoir tout ça. On me demande souvent, mais qu'est-ce que tu fais? Concrètement, tu fais quoi? Et on peut ne rien faire. La présence, c'est vraiment une présence totale. On est vraiment là, on n'est pas assis à côté en train de penser à autre chose. C'est une présence, c'est un accompagnement qui peut être dans la conscience de ce qui se passe. Ça peut être du toucher. En fait, je ne sais pas de quel moment on parle exactement dans l'accompagnement de fin de vie. Il y a des phases où on peut parler. La personne a besoin d'exprimer beaucoup de choses. En fait, c'est arriver à comprendre où en est la personne, elle ou ses proches, qui est-ce qu'on accompagne à ce moment-là, de quoi elle a besoin à ce moment-là, juste d'exprimer et de permettre que ça se fasse. Donc peut-être que ça peut être un contact pour rassurer, sentir la présence. Ça peut être un chant pour libérer un peu des énergies et créer de la sérénité et accompagner. Ça peut être à des moments de pouvoir libérer toutes ses émotions, tout ce qu'elle a sur le cœur, tous des secrets, tout ce qui n'a pas été dit. Ça sort et c'est fait. Ça peut être de créer de l'harmonie autour d'elle parce que des fois dans des situations et des personnes inconscientes, les gens autour ont l'impression que la personne elle est déjà plus là. On peut se disputer, on peut ferrailler qui est-ce qu'on invite aux funérailles, enfin j'en sais rien, où on se dispute l'héritage de l'armoire, enfin je ne sais pas. La personne est là et elle capte toutes les émotions. Quelqu'un qui est en fin de vie, c'est un être hypersensible, c'est comme un bébé qui vient de naître. Et qui capte tout ce qu'il y a autour. Et le job, pour moi, c'est de créer l'harmonie. Donc, aussi pouvoir dire aux personnes autour, eh ben, allez parler de ça plus loin. On va baisser les lumières, on va baisser le son, on va mettre de la beauté, on va mettre des fleurs. Enfin, moi, c'est quelque chose... Il faut qu'il y ait des fleurs vivantes, peut-être une bougie. C'est cette attention à créer les conditions qui font qu'il va pouvoir y avoir un... lâcher prise et ce qui doit se passer. Voilà.
J'imagine que chaque accompagnement est différent. Oui. Il n'y a pas d'accompagnement type. En fait, vous immergez dans l'énergie de cette personne-là pour l'accompagner au plus proche. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Il n'y a pas de mode d'emploi. Vous avez fait pourtant une formation où j'imagine qu'il doit y avoir... pas mal de lectures, peut-être, de choses comme ça. Ouais. C'est vrai que c'est assez obscur.
Non, il y a pas mal de lectures.
On a du mal à s'imaginer la formation.
Il y a pas mal de lectures, mais il y a aussi des jeux de rôle. On nous propose aussi beaucoup de jeux de rôle, en fait, quoi, et de mises en situation. Et voilà, c'est nourrissant. Et comme tu dis, en fait, on est, chaque situation est unique. On est tous identiques. Mais chaque situation, et on est tous uniques dans ce tout, en fait, quoi. Et c'est vrai que ça dépend vraiment de propre à chacun. Et c'est surtout se réapproprier, en fait, je crois que c'est ça, se réapproprier la mort et être ensemble, en fait, quoi. Et nous, on est un grain dans tout cet engrenage, parce qu'il peut y avoir médecin, famille, donc, enfin, les proches. Et on est un peu des facilitants et notre place, c'est aussi, il va peut-être avoir un endroit où on va nous confier quelque chose, si on a quelque chose à nous confier, on n'a pas du tout la même place, la même situation que des proches, que des amis, que des médecins, et c'est un travail commun, en fait, quoi. C'est vraiment, on fait partie d'un tout, et on apporte ça en plus. Et c'est vrai que la formation, ouais, ça peut être assez obscur. Après, on a des intervenants, on a des infirmiers en soins palliatifs, on parle des rituels, on fait des constellations. Et c'est beaucoup... Alors, il y a de la théorie, mais il y a énormément d'échanges, en fait. On crée nos propres... Enfin, on fait des cafés mortels ensemble. Et c'est beau parce que bah, on imagine bien, sur ma promo de 22, chacun a son parcours, son vécu... ses deuils, et ben là, on va gratter dans des endroits où il y a de la douleur, où il y a de la souffrance, mais on le pose, et ça fait du bien de poser, et ça, ben ça nous enrichit, enfin, c'est ça, ça nous nourrit. Enfin, je pense que la formation, c'est le propre, et en tout cas, la force de cette formation, c'est le groupe. C'est le groupe qui se forme, et c'est ce qu'on se donne sans rien, quoi, sans masque, sans rien, c'est on dépose et voilà. Et c'était hyper nourrissant, nous, quand on se retrouvait, il y avait de la joie de se retrouver parce que on se prend dans les bras, il y a des pleurs, il y a du rire, et voilà, c'est la vie, quoi, en fait.
Et une fois encore, la joie est mentionnée.
Oui, oui, vraiment.
Oui,
parce que ça fait partie de la vie.
J'ajoute, pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on fait dans cette formation et que je comprends bien. C'est vraiment différentes portes d'entrée, tout en lien avec ce sujet de la mort, la fin de vie, le deuil, l'agonie, etc. Et donc, on a aussi toute une palette d'outils qui nous sont transmis, ciblés sur ces sujets-là. Donc, l'homéopathie, quel type d'homéopathie, à quelle dilution on va donner, à quels endroits, le moment du choc, de la, on apprend la mort, tac, l'accompagnement au long cours. On a une partie d'aromathérapie, les huiles essentielles, lesquelles, sur quel passage. On a une partie avec les fleurs de Bac. On apprend pas mal, enfin plusieurs méditations qu'on, à chaque fois on pratique. Ça passe tout le temps par l'expérimentation par nous-mêmes, parce que le principe, c'est de dire pour accompagner, il faut avoir traversé. Bon, on n'est pas mort, mais voilà, mais des deuils, oui.
Je confirme.
Ouais. sur les outils, on a vraiment des séances pratiques d'apprendre le toucher. Elle appelle ça, notre formatrice, elle a le toucher honorant. Au début, elle parlait de toucher subtil. Parce que ce n'est pas des massages en fin de vie, on est hypersensible, on ne va pas masser. Mais juste apprendre ces touchers-là. À quel moment, quelle partie du corps on peut toucher ou pas et comment. Emmanuel parlait des constellations familiales, on passe à la moulinette de pourquoi on fait ça et c'est quoi notre rapport avec la mort, et on fait une constellation familiale collective, on constelle notre rapport à la mort. c'est hyper intéressant. voilà, et après on a des outils, donc beaucoup de théories et de livres, effectivement, ce qui est psychologie du deuil. Donc les grands classiques, Christophe Fauré, Elisabeth Kubler-Ross, les étapes du deuil, enfin voilà, je cite les plus connus, mais pour rassurer aussi, là vous voyez, je fais exprès de donner des choses pour dire aussi aux personnes qui vont nous écouter, et moi je le dis, c'est pas complètement farfelu, il y a tous ces outils très sérieux. Nous parle d'énergétique, et la formatrice, celle qui a créé l'école, elle est aussi formée en médecine énergétique chinoise. Donc, dans la vision de l'énergétique chinoise, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort ? Elle nous forme pas à l'énergétique chinoise au sens général, mais à chaque fois, ce que dit cette sagesse, cette connaissance sur la mort. Et ça, c'est rassemblé dans ces 9 mois de formation. Les infirmières qui viennent nous parler de c'est quoi les soins de fin de vie, les escarres, comment ça marche. Pas pour que nous, on puisse les faire. À la limite, dépanner un jour s'il y a besoin de faire un geste, mais ce n'est pas l'idée, mais comprendre, oui. Pouvoir alerter. Si on voit quelqu'un, bah là, moi, personnellement, jusqu'à présent, je n'avais jamais vu d'escar. Et bah là, il y a quelque chose, ça a l'air d'être un escar, et je peux dialoguer avec la famille et les infirmières, etc., etc. Voilà.
Oui, d'accord, oui. Et est-ce qu'il y a une approche, j'ai envie de dire, civilisationnelle, en fait, en fonction des... par exemple, il y a le livre tibétain de la vie et de la mort. Donc ça, c'est propre à cette culture tibétaine. Donc il y a une approche selon différentes organisations sociétales.
Il y a quelques transmissions là-dessus. On ne va pas très loin, parce que sinon, il faudrait... Faudrait faire un parcours universitaire là-dessus.
Ah oui.
Mais oui, en tout cas, toutes ces grandes références-là, elles nous sont transmises, en tout cas. Il y a une bibliographie qui nous est transmise. Et à chacun, après, aussi, de faire son chemin avec ça. Donc, le livre des morts tibétains, il sera présenté à nos portes ouvertes. On ne l'a pas mis dans la vitrine, parce qu'on ne veut pas faire peur, mais on a mis quelques livres dans la vitrine. Et on en a d'autres... nos fondamentaux qui seront présentés pendant les portes ouvertes. Voilà. Et oui, il y a une demi-journée un peu sur les approches des grandes civilisations, mais en fait, ça, on pourrait y passer. Mais après, pour le dire, quand même, ceux qui vont dans cette formation, c'est quand même plutôt des gens passionnés ou appelés par ça. Enfin, c'est un élan, c'est une vocation, c'est pas trop pour le fun quand même qu'on va passer ses week-ends là-bas. Et même si c'est très... C'est très joyeux. et tous, autant que nous sommes, et même Viviane, je me permets de parler pour elle, parce que là, ça fait partie de nos lectures, de ce qu'on se partage, cette approche civilisationnelle, parce que c'est de la nourriture pour nous, forcément.
Est-ce qu'il vous vient un titre de livre spontanément pour expliquer aux auditeurs Qu'est-ce que c'est cette activité de Tanadoula?
Ah, le livre en soi, waouh. Non, il faut venir aux portes ouvertes.
Il faut venir aux portes ouvertes. Eh ben oui, on le rappelle, c'est le 23 mai et le 30 mai.
Moi, je voulais juste rebondir sur une chose que disait Cécile par rapport à cette formation et par rapport... Donc, c'est Marie-Christine Laville qui, à Besançon, de l'Institut, qui a créé cette formation. Elle a été auditionnée l'été dernier par le Sénat par rapport à l'aide à mourir. C'est la loi là qui est en cours, enfin qui est un peu entre deux. Mais nous, aujourd'hui, c'est une certification. Donc, il n'y a pas une reconnaissance d'État. Mais voilà, l'audit qu'elle a passé, c'est parce que ça commence... Forcément, ça fait... Et depuis le Covid-19, c'est en explosion de formation. En fait, il y a de plus en plus de gens qui se forment. Et c'est vrai que pas mal d'aides-soignantes, d'infirmiers aussi, enfin, dans la formation, voilà, il y a une grosse partie des gens qui sont formés dans le tanadoulisme. Je ne sais pas si ça se dit. On va l'inventer. La thanatologie, en tout cas, là-dedans. Et c'est vrai que ça... Ben, voilà. Et ça se trouve, la prochaine étape, c'est que ça va devenir quelque chose de reconnu au niveau de l'État. Et ça serait vraiment bien. Enfin, l'idée, ça serait vraiment ça. C'est pas... c'est que ça fasse partie vraiment aussi de
la suite du protocole.
Ouais, et puis de quelque chose qui se dit, ah bah oui, on a aussi besoin. C'est juste, on revient, c'est un retour en avant. Hein. Enfin, voilà, c'est très vieux, et c'est vraiment le retour en avant. Et c'est vrai que ça a été très choquant pour beaucoup pendant le Covid, ben, de ne pas accompagner nos morts, en fait. Et de quelle façon, en fait, il y a eu un grand vide à ce niveau. Et aujourd'hui, on en est là à se dire, tiens, réapproprions-nous tout ça, quoi.
Oui, les gens, ils sont un petit peu abandonnés face à ça, et de les accompagner, d'accompagner tout le monde, ça semble être une évidence, quelque part.
Oui. Une évidence, oui. Moi, je ne suis pas anthropologue, mais les ethnologues, anthropologues, on identifie la notion de d'humain à partir du moment où on peut identifier dans l'archéologie des rites funéraires, des sites funéraires. On enterre nos morts, et donc... Entre guillemets, les anthropologues disent, on peut dire que ce ne sont plus des singes ou des primates, mais des humains. Alors voilà, j'ai pas la réponse, mais c'est une symbolique hyper forte. Et ce passage du Covid où on a mis ces morts, enfin voilà, sans cet accompagnement-là, je crois que on a touché un moment assez crucial de questionnement. C'est quoi l'humanité, c'est quoi notre humanité, au-delà de toutes les questions que ça a pu soulever, mais. Voilà.
Moi, Emmanuel, je te connais un petit peu d'une période un peu plus ancienne où tu étais plutôt dans le spectacle, plutôt comédien, puis danseur un peu, puis le bouteau. Et quel est ton regard aujourd'hui sur Tanadoula? Est-ce que le parcours que tu as effectué t'a orienté dans cette direction-là? Est-ce que ça t'a influencé à te diriger vers cet accompagnement de fin de vie?
Ouais, je crois que c'est une partie du puzzle de ma vie. Mais voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, c'est l'expérience de ma vie et c'est pour moi c'était limpide en fait. Enfin, c'était ce que je devais vivre, c'est ce que je dois vivre en ce moment. Après le buteau, par exemple, je continue un peu. Mais vraiment vite fait. Mais voilà, ça fait partie du process, en fait. Je suis là où je dois être. Enfin, c'est juste. Donc voilà, on a chacun, chacune, des expériences diverses et variées. Si tu savais Cécile, alors Viviane, tu connais un peu moins, mais Cécile a un parcours assez variable. Et enfin, voilà, on est des humains, quoi, en fait. Et, enfin, voilà, c'est l'expérience. Moi, c'est ce qui m'enrichit. Et c'est vrai qu'on a partagé, en plus... mais c'est vrai que dans mes spectacles, je fais vite fait une parenthèse, il y avait quand même le sujet de la mort qui était abordé. Voilà.
Ouais, comme quoi, c'était déjà présent, quoi.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est... Enfin, ouais, c'est une suite logique, c'est peut-être même pas une suite, c'est la continuité.
J'ai l'impression que les femmes et les hommes, ils ont toujours eu un peu peur de la mort. Et que c'est quelque chose qui fait peur aux gens. Est-ce que, lors de votre accompagnement, une des choses à faire, c'est de rassurer la personne? Est-ce que cette peur est légitime? Est-ce que cette peur a donné naissance à des façons de penser? Est-ce que la religion fait partie de ces peurs-là, de ne pas savoir qu'est-ce qui nous attend après? Enfin voilà.
Waouh, génial. Merci pour tes questions. On va faire une prochaine émission.
Grave, c'est clair, il y a moyen.
Bien sûr, la peur de la mort, je pense que c'est une des plus grandes peurs de l'homme. Mais encore une fois, je ne vais pas faire de généralité, parce que non, ce n'est pas vrai. Il y a des sociétés pour lesquelles... Alors, j'y ai pas vécu, ou en tout cas, je m'en souviens pas, mais société celtique ou des Vikings, ou, qui avaient une vision hyper claire pour eux, en tout cas, de après la mort, tu passes au Valhalla, ou, et puis ça va être génial, festif, et tout ira bien. Et l'important, c'est de mourir en guerrier, et après, on va festoyer, quoi. Donc, en fait, ça dépend aussi de. Voilà. Mais donc, je vais parler de la société actuelle en France, ici et maintenant, d'où je parle. Oui, la mort, c'est une de nos plus grandes peurs, pour la plupart d'entre nous. Oui, dans l'accompagnement, un des jobs, c'est de rassurer. Mais en fait, dans ces. Le premier des jobs, c'est de laisser exprimer cette peur. Et en fait, de décortiquer de quoi est-ce qu'on a vraiment peur. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur à vous ici, maintenant? Et on n'a pas peur de la même chose quand on a mon âge et que moi, Cécile, a 45 ans, qu'une personne qui a 90 ans et qui a vécu sa vie et qui voit que sa fin approche, ou une jeune maman qui est malade et qui a un enfant. Donc en fait, la peur est... Quand on rentre vraiment dans ce... Il y a la réflexion philosophique au sens large, la peur de la mort dans nos sociétés, bon... Émission sur France Culture. Et puis, quand on est dans le concret d'un humain, vous en êtes là, aujourd'hui, c'est quoi dont vous avez peur? Et puis, il y a la peur de souffrir. Est-ce que je vais avoir mal? Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Il y a la peur de je vais laisser mon enfant, qui va prendre soin de lui. Il peut y avoir mais plein de choses. Mmh. La peur qu'on découvre ses secrets. Quand il ne va plus être là, on va ouvrir mon ordinateur. Je n'ai pas nettoyé mes dossiers. Je vais passer des messages. Attention, nettoyez vos dossiers. Ben voilà, il y a plein de choses. Il y a des gens qui souhaitent la mort. On pourrait parler du suicide, mais il y a des gens qui n'attendent que ça, d'y arriver, mais qui ne se permettent pas. Enfin, voilà, grand sujet.
Ouais, c'est, et puis, juste pour compléter, de toute façon, c'est une peur de l'inconnu.
Oui, tout à fait.
De toute façon. Et puis après, il y a aussi la peur de perdre ses proches. Enfin, voilà, ça touche plein de choses, et c'est normal. Et ça ne veut pas dire que nous, en tant que Tanadoula, on est posés. Enfin, c'est aussi une recherche, c'est aussi une nourriture. Enfin, voilà, ça fait partie aussi. On est au même niveau, hein, qu'on soit d'accord. On va juste gratter un peu plus loin, mais on est au même niveau. Et voilà, c'est comment ça résonne, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai que c'est... Mais là, on peut faire plein d'émissions, hein, par rapport à tout ça. On est d'accord.
Voilà. J'ajoute pour moi deux notions qui sont... Enfin, une qui est hyper importante. Il y a la mort, c'est une chose. Il y a des gens qui disent, au final, j'ai pas peur, je vais disparaître. Mmh. Je serai plus là. Qu'est-ce que soit qu'on peut croire derrière. Ou des gens qui croient qu'il n'y a rien après, mais je ne serai plus là, j'aurai plus mal, tout ira bien. Mais qu'est-ce que je laisse? Et donc, la peur pour les personnes qu'on laisse... Il y a la mort et il y a la séparation. Mmh. Et ça, c'est pour moi, peut-être pas la plus grande peur, mais c'est la plus grande blessure. Mmh. Et c'est la plus grande souffrance ou chose avec laquelle on a à dealer, à vivre tous, tout type de séparation. Mais la mort est une des grandes séparations. Donc des personnes qui sont, entre guillemets, en paix avec la mort, mais il va y avoir de toute façon cette séparation. Et on a beau... Alors des personnes qui croient complètement à un au-delà, à une vie, une survie après la mort, même qu'on peut rester en lien avec des proches défunts, ça n'empêche pas la tristesse de la séparation physique. Et voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre, parce que, et distinguer ces choses, ça permet aussi d'arriver à mettre un peu de respiration et être un peu plus en paix avec tout ce qui se joue dans ces moments-là.
Je vous sens très enthousiaste dans cette activité d'accompagnement de fin de vie. Et franchement, c'est super. C'est chouette. Vous êtes content de faire ça?
Oui.
Bah oui.
Mais ouais, c'est trop bien. Viviane, qu'est-ce que tu en penses qu'ils viennent faire cette permanence, cette porte ouverte chez toi à l'étincelle le 23 et le 30 mai?
Moi, je suis heureuse en tout cas d'être là, d'écouter en même temps que toi. Parce que même si je les connais, même si on s'est rencontrés, le fait d'être vraiment là, à l'écoute de leur formation, de manière beaucoup plus complète, de redécouvrir aussi des personnalités, puisque voilà, on est ici, c'est dans le présent, il y a des mots qui sortent, qui expriment en profondeur ce qui est leur chemin. Donc ça me... Je suis contente de les découvrir en même temps que toi. Donc ça, c'est chouette parce que ça me confirme qu'on est sur le même chemin. Et que c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. Et que les choses en arrivent à se concrétiser. Au bout, effectivement, de ces deux années hein, où on s'est rencontrés petit à petit avec Cécile. Et de ces cercles où, finalement, quand je remonte à 15 ans en arrière, il y a une doula de naissance qui avait cherché à s'installer et où j'étais vraiment très, très heureuse. Les Tana Doula, on n'en parlait pas encore. Mais doula de naissance, voilà, c'était un projet qui me plaisait vraiment, vraiment, de faire cette toute petite salle qui est tout là-haut à Étincelles, dans laquelle Cécile fait ses soins. C'était le projet d'accueillir des mères, des pères qui étaient dans cette démarche d'accueillir un enfant. Et bien là, voilà, c'est après des années. Cette autre destinée qui est proposée aussi à Étincelles d'accueillir Emmanuel et Cécile pour ces premières portes ouvertes. Et moi, voilà, j'espère qu'ils trouveront un espace où les gens viendront naturellement, puisqu'en fait, c'est ça.
Bah déjà, une présentation de cette activité d'accompagnement de fin de vie, ça semble indispensable. Emmanuel, Cécile, Viviane, je vous remercie d'être venus pour nous parler un peu de cette activité de Tana Doula. On rappelle les deux rendez-vous, le samedi 23 mai de 10h à 16h, le samedi 30 mai de 10h à 13h. Ça se passe à l'Étincelle, 66 rue Camille Buffardel.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
La nature écrit au pinceau. Je quitte ma vie en sachant que je vous reverrai bientôt. Allez, souriez, vous qui étiez si beau. Faites mes amitiés aux collègues du boulot. Trinquez à ma santé et buvez au goulot. Je serai à côté juste au pied du boulot. En liberté, à l'abri des salauds. Alors évitez trop de méli-mélo. Imaginez-moi sous le soleil d'un îlot. Vous me manquerez, mais là je file en solo. Je pars pour mille et une raisons. Là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir j'abandonne ma maison. J'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau. Suivre son fil, léger, apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille. Où la nature écrit au pinceau. Je quitte ma vie en sachant que je vous reverrai bientôt. Mettez de la musique, vos plus belles tuniques. Versez quelques larmes et pas de discours pathétiques. Jouez au tennis, sortez vos pénis. Faites briller le soleil comme si vous étiez à Tunis. Faites éclater les sourires, mettez-vous à courir. Laissez les fous rire, je veux vous voir vous nourrir. Il était temps pour moi de partir. Ne soyez pas triste, c'est une belle heure pour mourir. Je pars pour mille et une raisons. Là où je vivrai toutes les saisons. Ce soir j'abandonne ma maison. J'irai m'allonger sous le buisson. Je quitte ma ville pour retrouver mon coin près du ruisseau. Suivre son fil, léger, apaisé par le chant des oiseaux. Enfin tranquille, tranquille. Où la nature écrit au pinceau. Ainsi soit-il, en sachant que je vous reverrai bientôt.